Espace 2.
Bonjour, vous écoutez Musique en mémoire, il est question ici de John Cage, de Morton Feldman, de leurs amis, bref, de l'école de New York. Soyez les bienvenus.
Musique en mémoire, Jean-Luc Rider.
Bonjour Catherine Buzer.
Bonjour Jean-Luc.
On a déjà appris grâce à vous et grâce à votre invité Ivan Illich, le pianiste américain, grand spécialiste de l'école de New York, ce qu'est cette musique, ce qu'a été cette musique. Et il nous reste peut-être à définir davantage les fondements esthétiques du groupe de l'école de New York.
Oui, il faut chercher l'origine de cette école dans la philosophie du 19e siècle, auprès d'écrivains tels que Ralph Waldo Emerson et Henry David Thoreau. Mais vous allez voir, Ivan Illich va nous raconter ça très bien.
His meditations are interrupted only by the faint sound of the Concord bell, a melody, as it were, imported into the wilderness. At a distance, over the woods, the sound acquires a certain vibratory hum, as if the pine needles in the horizon were the strings of a harp which it swept, a vibration of the universal lyre. Just as the intervening atmosphere makes a distant ridge of earth, interesting to the eyes by the azure tint it imparts.
Une mélodie de Charles Ives sur un texte de Henry David Thoreau, ici interprété par Susan Graham, accompagné au piano par Pierre-Laurent Aymard. Les compositeurs de l'école de New York, Ivan Illich, ont été particulièrement marqués et influencés par les idées de deux écrivains et philosophes américains du 19e siècle, Ralph Waldo Emerson d'un côté et Henry David Thoreau. Ces deux plumes ont joué un rôle essentiel dans l'émergence d'une esthétique américaine. Vous avez donc jugé nécessaire de leur accorder une grande place aujourd'hui. Est-ce que vous voudriez nous présenter ces deux auteurs qui sont Emerson et Thoreau?
Il faut tout d'abord commencer avec Ralph Waldo Emerson, non seulement puisque c'est l'aîné, mais puisque c'est le fondateur de cette pensée qui va tellement influencer l'esprit américain à travers les siècles qui vont suivre. Donc Ralph Waldo Emerson, il est fils d'un pasteur, il est né en 1803 à Boston. Il va passer les premières décennies de sa vie à Boston, puisqu'il va entrer à l'université de Harvard à 14 ans avec une belle bourse. Et par la suite, ayant terminé ses études, il va ouvrir une école pour les jeunes filles avec son frère dans la maison de sa maman. Il se marie assez jeune. Il a 28 ans quand il se marie avec une femme qui en a 18. Il fallait attendre son 18e anniversaire d'ailleurs. Et malheureusement, 18 mois plus tard, elle meurt d'une tuberculose. Donc il est très frappé par cette expérience. Entre-temps, il est devenu pasteur lui-même. Mais il commence à se fâcher avec les autorités de l'Église unitarienne, notamment au niveau de la communion. Et on sent qu'il vit une importante crise dans sa vie. Il commence à avoir des doutes sérieux sur sa foi. Et il laisse tout. Il plaque tout. Il plaque son nouveau boulot. Il plaque ses responsabilités de pasteur. Et il parle en Europe. Donc il part en Europe en tant que veuf et il va voyager en Suisse, en France, en Italie. Il aura une espèce de déclic dans le jardin des plantes en France quand il voit la façon dont Jussieu a classifié les différentes plantes. Et il est émerveillé en fait par la nature et la façon dont les choses sont liées les unes aux autres. Et pour lui, ça va être le début en fait de sa créativité, si je puisse dire, de sa vie intellectuelle. Il va revenir à Boston pendant 2 ans avant de s'installer à Concord, donc juste un peu à l'extérieur de Boston, d'où vient son père. Et il va commencer à mener une vie complètement indépendante de la société. Et c'est une figure qui est tellement charismatique que assez vite, il y a des poètes, des autres écrivains qui sont attirés par lui, un peu comme John Cage à New York en 1950. Sauf que là, on est encore dans le 19e siècle. Il est Emerson qui est né en 1803. Là, on est vers les fins des années 1830. Et à partir de Concord, la vie tranquille d'Emerson, il va commencer à écrire les livres pour lesquels il va devenir connu. En commençant par Nature, qu'il a écrit en 1836. Et la nature, c'est une espèce d'hommage à la nature, à la beauté de la nature, à son importance, à ses yeux. Nature comme une présence divine, comme quelque chose devant laquelle on peut être émerveillé, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus ambigu que sa foi chrétienne. C'est-à-dire qu'il réalise que pour lui, la réponse aux questions qu'il se pose, au niveau philosophique, il ne trouve pas les réponses dans la foi chrétienne. Donc, il va commencer à écrire sur l'autosuffisance de l'homme, de l'idée qu'on peut, en construisant sa propre vie et en quelque sorte en cultivant son propre petit jardin, on peut non seulement être autosuffisant dans le sens très basique, hein, au niveau financier et matériel, mais aussi on peut mener un exemple pour les autres. Donc c'est le respect du soi qui mène ensuite au respect des autres. Et ce sont des idées qui sont finalement assez simples et assez calmes, si je puisse dire, mais qui vont avoir un effet très impressionnant sur la vie intellectuelle des États-Unis. Puisque c'est quelque chose qui résonne fortement dans les gens, et notamment dans les poètes et les écrivains de l'époque. Donc Emerson va fonder comme un mouvement intellectuel véritable qui s'appelle le transcendantalisme. Il en parle dans ses conférences qu'il donne souvent, puisqu'il écrit non seulement, mais il donne des conférences où il élabore sa pensée, et dans une conférence qui s'appelle « The American Scholar », l'intellectuel américain, il va chercher dans ses idées pour aller plus loin, pour dire comment est-ce qu'un homme comme ça peut et doit vivre sa vie. Donc c'est une espèce d'idéal, il faut insister là-dessus, parce que ce n'est pas quelque chose qui est rigoureux du tout, c'est très idéaliste comme démarche, et il dit que les gens sont plus ou moins transcendantalistes sans pour autant être à 100%. Donc il ne prétend pas être un prophète du transcendantalisme, au contraire, mais c'est quelque chose, une tendance intellectuelle du coup, dont on profite au quotidien. C'est quelque chose de très humble, finalement, de très modeste. Alors, Thoreau, Henri David Thoreau, est né en 1817. Il a 14 ans moins d'Emerson. Il est aussi de Boston. Il est aussi boursier à l'université Harvard. Ils ont beaucoup de choses en commun, décidément. Et leur rencontre est assez ambiguë. On ne sait pas exactement à quel moment ils se sont rencontrés. Mais Thoreau était jeune. Il avait une vingtaine d'années. Et Emerson était de retour de ses voyages, de son séjour en Europe. Donc il venait d'avoir ce déclic personnel. Et là, il tombe sur un jeune homme qui comprend exactement ce qu'il lui dit et en même temps qui lui renvoie en quelque sorte les mêmes idées. Parce qu'il paraît que Thoreau, quand il a fini ses classes au lycée, il a donné un discours devant toute la classe puisqu'il était poète de la classe, où il a élucidé quelques idées qui sont finalement très proches d'Emerson déjà. Donc sans le savoir, je pense, ils étaient déjà tous les deux sur la même voie. Alors Emerson était extrêmement sensible à ce jeune homme, qu'il trouvait brillant et très intéressant, du coup il a envoyé à son frère, qui habitait un peu loin de Boston, pour qu'il ait un boulot. Malheureusement, le frère d'Emerson était beaucoup moins philosophe que lui, et Thoreau est revenu assez rapidement. Et là, pour aider le jeune homme, Emerson l'a invité à vivre chez lui, à être son jardinier. Et comme ça, c'était en fait une excuse pour échanger. Et ce qui est très intéressant, tout en étant complètement imprégné des idées d'Emerson, Thoreau a réussit à créer sa propre version, sa petite sauce à lui, de ses idées. Donc, il va devenir une figure majeure, encore une fois, des intellectuels américains. Et ces deux hommes, ces deux grands hommes américains, vont se connaître tout au long de leur vie. Et c'est Thoreau, le plus jeune, qui va mourir en premier, en 62. Et Emerson qui va vivre une vingtaine d'années de plus. Donc, il aura du temps pour méditer. Et apparemment, lors de leur première rencontre, c'était la phrase clé que Emerson a lancée à Thoreau qui lui a changé la vie. Il lui a demandé « Est-ce que vous tenez un journal intime ?» Et ça a été pour lui un énorme déclic parce qu'il n'a jamais eu l'idée de tenir un journal intime. Mais en commençant son journal intime, Thoreau s'est mis en lien avec sa propre observation. C'est-à-dire qu'il a réalisé qu'il avait des idées. C'était la reconnaissance de soi, en quelque sorte. Il lui donnait permission de l'être, en quelque sorte. Donc c'était un moment très fort. Et en retour, Emerson a profité, tout au long de la vie de Thoreau, de ses écrits, de sa pensée. Et par la suite, Thoreau, qui a décidé de se retirer de la société, il a fait sur la propriété d'Emerson, qui avait une propriété sur un lac qui est désormais connu, qui s'appelle Walden. Et Thoreau a décidé pendant un an et demi de se retirer du monde, de vivre de façon complètement indépendante, un peu comme ce qui est proscrit du coup dans les écrits d'Emerson. C'est Thoreau qui l'a mis en œuvre, qui l'a vraiment vécu ces choses jusqu'au bout. Et les observations de Thoreau sur les saisons qui changent, sur la nature, sur les animaux, puisqu'il voit très peu de monde. À chaque fois qu'il est en lien avec d'autres personnes qui lui rendent visite, que ce soit le facteur ou qu'on lui demande de payer ses impôts, c'est un événement majeur dans la vie de Thoreau. Donc il va décrire tout cela dans un bouquin qui s'appelle Walden. Et ça va être le livre majeur intellectuel des États-Unis du XIXe siècle.
Quand on vous entend décrire cette très belle amitié entre Thoreau et Emerson, on ne peut pas s'empêcher de la mettre en parallèle entre l'amitié qui unissait John Cage et Morton Feldman. Feldman aussi était le plus jeune des deux, c'est lui qui est parti en premier. Feldman doit aussi beaucoup à Cage, qui l'a encouragé dans sa carrière. Est-ce que c'est un hasard finalement que ces destins soient aussi mis en parallèle ?
Il y a un hasard, ça existe dans la musique, même dans l'art en général. On a aussi eu Brahms et Schumann, par exemple, si on pense au romantique. Schumann, qui était déjà reconnu, qui a reconnu le génie de ce jeune homme et qui l'a énormément encouragé, qui a passé beaucoup de temps avec lui. Donc je pense que c'est quelque chose qui revient et revient encore dans l'histoire. Ce qui est particulièrement frappant en ce qui concerne le parallèle entre Thoreau, Emerson, Cage, Feldman, c'est le côté effectivement américain et que Emerson était en quelque sorte le premier grand intellectuel américain. Est-ce qu'il est philosophe, est-ce qu'il est poète, on ne sait pas, il est conférencier. C'est un homme public, en fait, qui a des idées nouvelles. Et de même, John Cage, c'est vraiment le premier grand compositeur américain. Donc, avec un siècle d'écart, on a des figures vraiment majeures. Alors, je pense que Cage avait besoin d'Emerson. Enfin, on a tous besoin d'Emerson aux États-Unis, avec les Américains. Le Nouveau Monde, même, ils ont besoin de figures, de rôles, de modèles. Et je pense que cette relation est extrêmement riche, puisque à la fois, c'était des mélanges. Bon, Emerson, il a mélangé des choses de la philosophie orientale avec des choses du romantisme allemand, par exemple. Mais il a réussi à créer quelque chose qui résonne, même quand on lit l'histoire avant Emerson, des premières colonies. Tout ça a imprégné la façon dont les premières immigrés ont été fascinés par la nature, par ce côté extrêmement sauvage des États-Unis, par un endroit où il n'y a en effet pas de frontières, puisqu'on ignore en fait ce qui existe. Et on est fasciné par la nature. Je pense que c'est quelque chose qui est typiquement américain finalement. C'est comme ça qu'on peut définir l'esthétique des États-Unis. Moi, à l'échelle plus modeste, quand je suis en tournée, par exemple, en Californie, je suis toujours frappé par le fait qu'en dehors des grandes villes, l'architecture est faite pour qu'on soit bien dans la nature. C'est intégré dans la nature et on n'essaie pas d'être en concurrence avec la nature. C'est-à-dire qu'on met tout en valeur. Il y a des énormes baies vitrées, par exemple, qui vous donnent les vues sur les arbres splendides qui ont 200 années, les séquoias. Il y a des arbres magnifiques. C'est la nature qui prime, en fait. Tandis qu'en Europe, on a tendance, en tout cas à mon avis, à vouloir créer des choses qui sont d'un équilibre et, tellement impressionnant que ces bâtiments rivalisent avec la nature. Je crois qu'aux États-Unis, c'est tout à fait américain de ne pas essayer de rivaliser avec la nature, mais de la regarder avec émerveillement.
Mais cet amour qu'on porte à la nature, il est aussi présent chez les romantiques au XIXe siècle. Alors en quoi le transcendantalisme se distingue de la pensée romantique ?
Oui, c'est vrai. Je dirais que la différence, c'est que dans le romantisme, par exemple, allemand, ou romantique en tout cas, on parlait souvent de l'esprit de la forêt, des choses comme ça. Il y avait un côté...
La nature païen. Confidente.
Oui, confidente, exactement. Bien que Cage et Emerson évoquent ce genre de choses, ils étaient très intéressés par l'idée qu'en observant, en notant ce qu'on observe, on se découvre soi-même. Donc c'est une espèce de recherche intérieure qui n'est pas forcément en lien avec les émotions violentes, comme le romantisme. Au contraire, c'est une contemplation qu'on recherche. Et c'est là où Cage, encore une fois, a fait son propre mélange, puisqu'en 1947, il s'intéressait beaucoup à la pensée indienne. Et il était très mal à l'aise en rapport avec l'idée que la musique est écrite pour communiquer quelque chose. Puisque pourquoi ? Exemple très simple, Cage écrit une musique, ce qu'il considère comme triste, et le public rit. Alors il se dit, c'est pas une communication directe. Et je pense que ça arrive très souvent que les compositeurs, leur musique est reçue d'une façon totalement différente que ce qu'ils ont pu imaginer. Alors Cage a dit, si la musique n'est pas de la communication, ce n'est pas un langage, un vrai langage, alors pourquoi on crée de la musique ? Et il a trouvé la réponse dans la pensée indienne, qui dit que le but de la création de la musique, c'est pour calmer l'esprit et pour se mettre en lien avec les influences divines. Du coup, c'était un peu sa nouvelle philosophie pour le restant de sa vie. Et on sent ce côté-là dans la philosophie de transcendantaliste d'Emerson et de Thoreau. La nature, c'est quelque chose de divin. C'est quelque chose qui est au-dessus, à laquelle on ne touche pas, qu'on respecte surtout. Donc c'est assez drôle parce qu'aujourd'hui, c'est tout à fait en relation avec l'écologie contemporaine. Hein. Sauf que c'était en 1845.
Les écolos avant l'heure. Et ce qui est amusant aussi, c'est que Emerson et Thoreau avaient tous deux étudié les religions orientales. Je pense qu'ils avaient travaillé l'hindouisme, le confucianisme, le soufisme. Qu'est-ce qui les attirait ? Qu'est-ce qui leur plaisait dans ces philosophies ?
Je pense que c'était l'idée d'échapper à une hiérarchie sociétale. C'est-à-dire que dans la spiritualité orientale, c'est quelque chose de personnel. C'est pas comme chez les chrétiens, par exemple, une église, il y a une hiérarchie qui est sur des niveaux différents, des échelons. Dans le transcendantaliste, par exemple, dans sa conférence, Emerson parle beaucoup du fait que l'idéal de l'homme, c'est d'être indépendant du gouvernement, de l'église, de la loi, et de regarder tout ça avec distance. Et encore une fois, dans la pensée orientale, cette distance revient encore et encore. C'est-à-dire que c'est le calme. D'ailleurs, dans la pensée indienne, encore une fois, il y avait 9 émotions permanentes, 4 qui sont considérées positives, 4 négatives. Et puis après, positif, c'est blanc, négatif, c'est noir. Et puis il y a neutre, il y a transparent. Et en quelque sorte, c'est l'état qu'on recherche tous. C'est qu'on veut contempler sans être agressé par ses propres émotions. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment marqué la pensée d'Emerson et de Thoreau. Que ça vienne des Chinois, que ça vienne des Indiens, c'est quelque chose qui n'est pas occidental. Donc, c'est très intéressant cette recherche d'identité à travers des choses très exotiques, finalement. Et c'est assez puissant la façon dont les Américains ont réussi à reconnaître en eux-mêmes les qualités qu'ils ont déjà, à travers la pensée non européenne, mais asiatique.
Quels sont les textes d'Emerson et de Thoreau qui ont le plus inspiré les compositeurs ?
Alors, je pense que l'intellectuel américain, c'est un texte vraiment clé. La nature d'Emerson également, puisque ce sont les fondements de sa pensée. Donc, je pense que c'est quelque chose, un peu comme David Hume, il a écrit un grand livre au début de sa carrière. Il a passé le reste de sa vie à défendre ce livre, à l'expliquer pour que les gens comprennent mieux. Après, je pense que ce qui était vraiment fort chez Emerson et Thoreau, c'était non seulement leur livre, mais leur mode de vie et le fait que c'est une démarche politique, si je puisse dire, puisque ce sont des gens qui ont fait tout pour vivre à la lettre de ce qu'ils disaient. Ils n'y parvenaient pas toujours, mais c'était, enfin, je veux dire, un taureau, un jeune homme qui a 28 ans, qui va se retirer, qui va construire un chalet sur la propriété d'Emerson et qui va y vivre sans aide de qui que ce soit, qui aura son petit jardin, qui va se laver dans le lac de Walden. C'est complètement farfelu et incroyable. Mais par contre, il l'a fait. Et tout le monde le savait, parce que Concord, Massachusetts, en 1845, c'était petit. Hein. S'il y a un homme qui faisait quelque chose d'assez excentrique, ça se savait dans la petite ville. Cette volonté, et ça revient dans Cage et chez Feldman aussi, mais notamment chez Cage, d'être toujours indépendant et de vivre vraiment ce qu'il dit, c'est très impressionnant. Chez les artistes, il faut dire que c'est rare. Hein. Souvent, ils sont hypocrites, que ce soit les philosophes ou les grands écrivains. On ne va pas évoquer Sartre et compagnie, mais on a souvent des artistes qui s'intéressent à des grandes valeurs et dans leur vie privée, ils font tout le contraire de ce qu'ils disent.
Alors, un grand compositeur qui s'est beaucoup inspiré de la poésie d'Emerson, c'est Charles Ives, avec lequel nous avons ouvert cette émission. Et je vous propose d'écouter sa mise en musique d'un poème d'Emerson qui a pour titre « Duty, Vita, Duty ». Duty et Vita, devoir et vie, c'est une mélodie de Charles Ives pour mezzo-soprano, chœur, quatuor à cordes et piano sur des textes de Ralph Waldo Emerson. Emerson, le chef de file du courant transcendantaliste, comment est-ce qu'on peut définir cette tendance?
Je dirais que dans le discours, enfin dans la conférence qu'Emerson a donnée, qui s'appelle « Le transcendantaliste », il commence par distinguer les matérialistes des idéalistes. Donc les matérialistes, à savoir des gens qui croient dans les faits, dans les circonstances, dans les choses concrètes, si je puis dire, dans ce qu'ils perçoivent. Ils perçoivent ça comme une réalité et ils ne posent pas de questions. Les idéalistes, c'est leur pensée, c'est eux, comment ils ressentent les choses, leur volonté individuelle, leur inspiration. Emerson revient souvent à une façon de décrire ça, la culture individuelle. Je trouve ça très intéressant. En contraste, évidemment, avec la culture sociétale ou de groupe ou communautaire. Donc, l'individu est au centre de la pensée du transcendantaliste. c'est le rapport avec la nature, comme je disais tout à l'heure, mais c'est surtout la façon dont chaque personne va percevoir sa réalité. C'est-à-dire que, je crois que Emerson a même dit, sa pensée, c'est l'univers. Donc tout ce qu'on peut penser, sa conscience, devient primordial. Et c'est là où je vois le lien avec Cage et avec Feldman, puisque Cage, ce qu'il avait envie d'entendre, c'est tous les bruits, tous les sons qui peuvent l'entourer. Donc ça implique qu'il y a quelqu'un qui écoute déjà. Mais Feldman, par exemple, lui, son univers, c'était très typé. Cage lui reproche ça même. Il dit qu'il a une idée, une image très précise de ce qui est beau. Eh bien, c'est vrai. Et pour Feldman, c'est tout ce qui compte. Ça ne l'intéresse pas, les accents. Ça ne l'intéresse pas, la musique forte ou rapide. C'est toujours la même chose. C'est toujours lent. C'est toujours mélancolique. Il y a toujours très peu de notes. Ça dure toujours très longtemps. Mais ça, c'est très transcendantaliste de la part de Feldman d'avoir suivi cette voie jusqu'au bout, d'avoir choisi sa culture individuelle à lui. C'est la musique qui lui correspond à lui et de faire que ça. Il y a une phrase qui est très belle dans le même discours de Emerson qui résume, mais qui est aussi assez poétique. Et je trouve que c'est important d'insister sur le fait que Emerson n'est pas seulement philosophe, mais poète quelque part. C'est-à-dire que il y a même sur la production d'Emerson, donc grand philosophe américain, il n'y a même pas la moitié qui est traduite en français, par exemple, parce que c'est très difficile à traduire. Alors, il dit que ce qu'on appelle le moi, le je, c'est en fait un moule dans lequel on passe le monde comme si on versait du cire fondu. C'est-à-dire que tout le monde prend la forme du moule qui est mon cerveau, qui est ma pensée. Et à part le fait que je trouve que c'est assez juste, que c'est quelque chose qui me parle, c'est très subjectif, hein, bien sûr, parce que ça veut dire que tout ce qu'on voit est coloré par la perception individuelle. Et aussi, ça valorise la pensée de chacun. Ça veut dire que, contrairement à, par exemple, l'enseignement de la musique à travers des décennies, où il y avait des règles, où il y avait des choses qui étaient considérées comme qualitative ou alors des choses qu'il ne fallait pas faire. Ce qui compte dans cette pensée-là, c'est justement pas ce que les autres pensent, mais ce que toi, tu penses. Et je trouve que ça, du coup, ça donne permission à chaque personne d'avoir sa propre créativité. Donc ça, à la fois, ça a donné cette idée-là, la permission au compositeur américain de créer un style propre qui n'a rien à voir avec l'Europe. Donc très important parce que le bagage culturel a créé un complexe énorme chez les intellectuels américains, que ce soit en écriture ou en composition musicale ou en art plastique. Il fallait vraiment passer outre ce complexe. Mais non seulement les Américains ils peuvent créer leur style, mais chaque Américain peut avoir son propre style. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit non seulement dans la musique, mais notamment dans les arts plastiques, dans l'école de New York de peintres. C'est hallucinant de voir, de constater à quel point il y a des choses qui rejoignent et au même temps, à quel point, quand vous pensez à la différence entre Mark Rothko et Jackson Pollock, ben, je veux dire, ça n'a rien à voir. Et au même temps, il y a des choses qui se rejoignent. Mais ces gens-là osaient chacun avoir leur patte artistique. Et c'est ce qu'on retrouve chez Feldman et chez Cage.
Et chez bien d'autres encore, j'imagine que d'autres compositeurs américains ont dû se réclamer de cette filiation avec les transcendantalistes.
Tout à fait, notamment la génération suivante, ben, c'est des compositeurs d'ailleurs qui sont beaucoup plus grand public, par exemple Steve Reich ou alors Philip Glass, ce sont des gens qui n'ont jamais pu exister sans les Feldman et les Cage avant, hein, mais ça reste très américain comme démarche. Et en même temps, ils ont commencé ensemble. Reich et Glass avaient même une entreprise de déménagement ensemble puisqu'ils n'arrivaient pas à gagner leur vie avec la musique. Et en même temps, on peut difficilement confondre une pièce de Reich avec une pièce de Glass, tellement c'est différent. Il y a aussi là Monty Young, quelqu'un qui connaissait très bien les œuvres de Cage et de Feldman, et qui lui, totalement, il est vraiment dans un monde à part, c'est-à-dire que c'est un bonhomme qui vit selon la musique qu'il veut créer. Tout ce qu'il fait est en lien avec la production musicale, et c'est très à l'extrême. Mais tous ces personnages farfelus, excentriques, expérimentales, finalement, c'est comme ça qu'on définit les États-Unis. C'est des gens qui chacun est complètement individuel et en même temps, ça dégage quelque chose de la pensée d'Emerson. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement ancré dans la pensée intellectuelle américaine, on peut difficilement s'échapper de la pensée d'Emerson. Il y a un lien. Soit on rejette, soit on accepte, mais le lien existe.
C'est surprenant qu'il ait fallu attendre la génération de Johnny Cage pour réaliser l'importance d'Emerson. Il est quand même du début du 19e siècle.
C'est vrai. Je pense que parmi les écrivains, ça a été largement reconnu. Mais parmi les compositeurs américains académiques, notamment, dans le 19e siècle, par exemple, pour étudier la musique classique, il fallait aller en Europe, à la source, entre guillemets. Quelque part, c'est logique. Et puis, il ne faut pas oublier que c'était avant les Bartok, avant les Stravinsky, avant tous les compositeurs de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est qui ont montré que la musique classique, ce n'était pas uniquement les Allemands et les Italiens et éventuellement quelques Français.
Il fallait que l'impulsion soit donnée.
Exactement. Thank you.
Deux études australes de John Cage interprétées par Stefan Schleiermacher. Alors j'imagine que Morton Feldman et John Cage n'ont pas lu que la philosophie d'Emerson et Thoreau, mais qu'ils avaient certainement d'intérêt vers d'autres textes. Est-ce qu'on sait quels lecteurs ils étaient et quels étaient leurs auteurs de prédilection?
Alors, John Cage avait des intérêts assez éclectiques, si je puis dire.
Que ça fait partie du personnage.
Oui, ça fait partie du personnage. Et puis, c'est comme ça qu'on l'identifie, justement, qu'il s'intéresse à des idées qui sont un peu éparpillées dans tous les sens. Que ce soit dans la philosophie ou dans l'étude de la société moderne, puisque il faut savoir que John Cage, assez rapidement, a pris le statut d'un grand homme public intellectuel. C'est quelqu'un qui faisait les couvertures de magazines aux États-Unis. Même si les gens n'écoutaient pas sa musique, ils étaient conscients que cet homme existait et était influent. Donc je pense que lui, il avait un souci d'homme politique. Ça se voit aussi dans sa musique, la façon dont il essaye de briser les hiérarchies, de créer pas seulement l'anarchie, mais aussi l'équilibre, une espèce de démocratie que les interprètes, eux aussi, qu'ils peuvent prendre des décisions. Tout peut arriver, l'acceptation de tout ça est révélatrice de ses amours en littérature, ou plutôt en lecture. Tandis que Feldman, je pense, encore une fois, puisqu'il n'a pas fait d'études, était très soucieux d'être intellectuel. et de lire tous les grands textes du passé, les classiques. Donc lui, quand il cite les auteurs, ça va être, quand c'est les philosophes, ça va être Kierkegaard, ça va être Hegel, ça va être Wittgenstein à la limite, pour être plus contemporain. Et puis après, dans les romans, il a lu tous les grands russes, etc. Mais disons que ce qui est important avec Feldman, et ça se ressent quand il parle, quand il répond aux interviews, quand il donne des conférences, c'est qu'il était effectivement un lecteur boulimique, qui ingestait tout et qui avait besoin aussi de communiquer, de digérer de sa façon. Et en parlant, on sent les liens qu'il fait entre les différents domaines. C'est très intéressant de voir sa façon de penser. Après, quel est le lien entre leur lecture et leur musique? On peut en chercher à tous les niveaux. Mais disons que c'était des gens qui étaient extrêmement cultivés de toute façon, curieux de tout. On se demande justement comment Feldman y faisait, s'il composait 12 heures par jour comme il le prétendait. Quand est-ce qu'il avait le temps pour lire? Mais apparemment, il restait quelques heures.
Ce qu'on sait, c'est qu'à la fin de sa vie, cette passion pour la lecture a dû être réfrénée parce qu'il avait de gros problèmes de vue. Et si on voit les photographies de Morton Feldman, on le voit avec d'énormes lunettes, presque à triple foyer.
En effet, oui.
Mais Cage et Feldman ont surtout beaucoup écrit sur leur art et c'est peut-être aussi pour ça qu'on les connaît aussi bien aujourd'hui. On a entendu hier des extraits des conférences qu'ils donnaient. Ces conférences ont été écrites, rédigées. Ils donnaient régulièrement des conférences au club ou à la taverne Cedar. J'aimerais bien que vous me parliez de ces lieux parce qu'ils ont l'air d'avoir quelque chose d'extraordinaire.
Oui, disons que l'échange, le dialogue notamment, était, à mon avis, encore plus important que la lecture dans la vie de ce genre d'artiste. Le Cedar Tavern, donc c'était un bar depuis les années 40 à New York, d'ailleurs qui s'est déplacé, mais dans lequel les artistes, notamment visuels, mais aussi les poètes, et notamment John Cage et Feldman, se réunissaient quotidiennement pour discuter, pour échanger des idées. Et je trouve que l'autre jour, quand on a écouté dans l'émission l'échange entre Feldman et Cage, le Radio Happening, donc l'échange, le dialogue à la radio, on comprenait le genre d'ambiance. Enfin, ce sont des discussions qui peuvent durer des heures. Et je pense que tous les artistes connaissent ça. Hein, ils ont tous vécu ça. Mais pas forcément au quotidien, comme Cage et Feldman. Ils avaient la chance de pouvoir passer du temps à faire ça. Et c'était l'occasion pour eux d'échanger des idées. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que moi, par la suite, j'ai fait des recherches sur les artistes visuels. On peut revenir là-dessus. Mais j'ai reconnu plusieurs fois des propos de Feldman et de Cage qui me semblaient particulièrement originaux. J'ai vu, en fait, que ça venait souvent des artistes plastiques. C'est-à-dire qu'il y avait des idées qui circulaient à l'époque dans les différents arts, dans les différents domaines artistiques et dont ils se servaient. Et puis, ils essayaient des idées. Parfois, ils changeaient d'avis. Ou alors, dans une interview, ils allaient voir est-ce que c'était cohérent avec la musique. Et je pense qu'ils étaient soucieux de s'expliquer pour plusieurs raisons. Pour Feldman, puisqu'il fallait qu'il se positionne, il fallait qu'il s'impose. C'était un jeune compositeur. Il travaillait encore chez son oncle dans l'usine de fabrication de manteaux pour enfants. Donc, c'était pas bien glamour. Mais en soirée, il fallait absolument qu'il parle de sa musique, qu'il partage des choses. Donc, il fallait qu'il se justifie en quelque sorte. Et dans ses écrits de Feldman, dans les premières années, dans les années 50, 60, 70, on sent chez lui cette volonté de montrer qu'il est, de montrer qu'il est intellectuel justement, qu'il a des choses à dire. Et plus tard, quand il a eu un peu plus de succès, il commence à donner des conférences, il était professeur, donc il a commencé à avoir l'habitude de parler pendant des heures d'affilée devant ses élèves et d'avoir un public, à proprement dit. C'est assez drôle parce que finalement se rejoint ces compositions qui sont très digressives, mais qui restent sur le même sujet, qui peuvent développer un thème et qui changent légèrement pendant des heures et des heures. Et pour Feldman, c'est une espèce de performance musicale. Et je pense que Cage, il pourrait apprécier ça parce que quand Cage donnait des conférences ou quand il donnait des interviews, en fait, on a l'impression que c'était une performance musicale, la façon dont il s'exprimait. Et même dans ses écrits, parfois, il utilisait les opérations de chance pour changer l'ordre des paragraphes, ce qui faisait que parfois c'était difficile de savoir où il en venait. Mais pour lui, c'était un tout, sa vie artistique, musicale, tout ça c'était lié. Donc il y avait deux démarches quand même assez différentes. Pour Cage, le texte, c'était à la fois l'occasion d'exprimer des idées, mais aussi l'occasion de manipuler le langage, un peu comme ce qu'il faisait dans ses compositions. Tandis que pour Feldman, c'était l'occasion de se justifier, de donner sa grande vision du monde musical, du passé. Et il faut dire que ses conférences sont passionnantes. C'est quelqu'un qui était très sûr de lui et qui avait plein d'idées, qui a un regard assez lucide finalement. Moi-même, qui a lu tous les écrits de Feldman et notamment les conférences que j'apprécie énormément. J'ai l'impression d'avoir reçu un enseignement en musique de Feldman.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ces conférences, elles sont disponibles à tout un chacun. Il suffit de se connecter sur Internet, d'aller sur YouTube et d'aller trouver ce site Internet que vous nous avez présenté dans la première émission de Chris Willis pour écouter la voix de Feldman et écouter ses conférences. Et moi, j'aimerais bien qu'on aille écouter un petit bout histoire de se remettre en oreille la voix de Morton Feldman.
I gave an interview and I said, and they were talking about audiences, I said, look, if you need an audience, we don't need you. And I really believe that. For the bottom of my 35 years of practically going blind writing music, I mean, it has no hostility against an audience. But I think the thing that really phases out most young artists, young composers, and a lot of older ones, is that they think there's some kind of magic formula that they're going to arrive at, in a sense, to capture them. You know, and then do it Superman once, twice, three, four times, forget it.
Morton Feldman, en 1986, il est tout juste âgé de 60 ans. Et on l'entend ici à plusieurs reprises parler de l'audience, du public. À qui s'adressaient ses conférences?
Je pense que souvent, il pense aux jeunes compositeurs, puisque lui, il est professeur à l'Université de Buffalo. Et il a envie de les aider et au même temps, il ne sait pas trop comment les orienter. Il voit que, notamment dans les années 80, les gens commencent à se retourner vers le public, à se dire « mince, on a perdu le public parce qu'on a fait une musique trop abstraite, trop conceptuelle, il n'y a plus de public ». Et c'est drôle parce que c'est une réflexion qui est très contemporaine. Hein. On est encore aujourd'hui exactement au même endroit finalement qu'il y a 30 ans. Et je pense que quand il dit qu'il faut oublier le public ou qu'il ne faut pas y prêter attention, ce qu'il veut dire, c'est qu'on n'arrive pas à écrire la meilleure musique qu'on puisse composer en pensant au public, en pensant à leur réaction. Il faut puiser à l'intérieur de soi-même et faire un travail en profondeur, en fait. Et donc, c'est très pédagogue de sa part. Hein. Et puis, il exprime avec beaucoup d'humour, comme toujours. C'est assez ironique d'ailleurs, puisque Feldman, tout au long de sa carrière, il a écrit des musiques qui étaient complètement impénétrables. Et puis, une fois qu'il était donc professeur à l'université de Buffalo, il pouvait faire ce qu'il voulait, il était complètement indépendant, il pouvait écrire de la musique toute la journée. Il a commencé à écrire une musique qui, pour lui, il avait l'impression qu'il rejetait le public, puisque il écrit des œuvres de plus en plus longues, un quatuor à cordes qui dure 4h30, un trio pour piano, violon et violoncelle qui dure 1h30. Et c'est là, justement, où il y a le plus de succès. Alors, pour lui, il pense que c'est la clé, c'est d'oublier les autres et de faire ce qu'on a envie de faire et de le faire jusqu'au bout. Et puis, les autres, ils suivent ou ils ne suivent pas, mais au moins, vous avez fait. Mais c'est quelque chose, c'est très intéressant. C'est au moment où il ne pense plus aux autres et à son succès qu'il a l'impression qu'il avait échappé au succès ou à une carrière, qu'il a le succès le plus fulgurant.
Et pour prendre congé, une pièce de Morton Feldman semble s'imposer. Ivan Illich, qu'est-ce que vous nous proposez?
Alors, je vous propose l'écoute de For John Cage, donc pour John Cage, une pièce écrite en 1982. Et c'était à l'occasion du 70e anniversaire de John Cage. Et c'est assez drôle puisque c'était au moment où les œuvres de Feldman devenaient de plus en plus longues. Et on lui a commandé une pièce donc pour l'événement, un grand concert à New York, où il y aurait plusieurs compositeurs. Et en écrivant la pièce pour violon et piano, Feldman a rapidement réalisé que la façon dont il avait de traiter ses matériaux, c'est-à-dire de prendre une toute petite cellule et de la retourner, de réfléchir autrement, eh bien, après 20 minutes de musique, il réalisait qu'il est arrivé même pas à un tiers du morceau. Donc il a rappelé les organisateurs de concert en disant « Si vous avez d'autres compositeurs prévus pour ce concert, je ne peux pas vous proposer cette pièce. » Et je pense que finalement, la création de la pièce a été donnée à Los Angeles après. Et c'est l'exemple typique pour Feldman d'une pièce qu'il a composée en oubliant totalement la réaction potentielle d'un public ou d'autrui et qui a eu d'autant plus de succès.
Merci Ivan Illich. À demain.
À demain.